Bonjour, bien-aimés. Heureux d'être dans la présence de Dieu encore ce matin. Moi, je trouve qu'on a de bonnes habitudes. De louer notre Dieu, de célébrer sa majesté, de venir et d'être dépendant de lui, de déclarer toutes les promesses que la Bible dit en chantant, en prière, de tout notre cœur. Je crois qu'il y a des bonnes habitudes, peut-être à trouver pour certains d'entre nous qui viendraient silencieusement en ce lieu. Tu as besoin de vivre la communauté de Dieu, non pas parce que nous sommes la meilleure église du monde entier, nous avons nos limites, mais nous sommes amoureux de la présence de Dieu. Et ça, c'est le cœur même de l'église, elle est amoureuse de la présence de son bien-aimé. Et nous voulons ensemble nous réjouir de ce que Dieu est au milieu de nous quand deux ou trois sont réunis en son nom. Et pas juste pour être là un dimanche matin pour nous acquitter de la pointeuse religieuse, j'ai fait mon culte dominical, mais nous venons avec une attente, nous venons pour rencontrer Dieu, nous venons parce que Dieu, nous avons besoin de lui parler et il a besoin de nous parler aussi. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Alors, on va surfer sur le calendrier, je vous l'avais promis. Bonne fête, papa. Est-ce qu'on peut souhaiter la bonne fête à tous les papas? Ouais. Est-ce qu'il y a des papas dans la salle? Ouais. Une bonne fête à tous les papas. Et s'il y a les fils dans la salle, encore plus, vous devez souhaiter la bonne fête, et les filles, souhaiter la bonne fête à votre papa. Que les fils et les filles, normalement. Mais ce matin, je m'adresserai à tous ces hommes qui deviendront pères, et certains ne le seront jamais par l'ordre biologique. Mais il y a une promesse dans la parole de Dieu à l'être de manière spirituelle aussi. Donc je veux souhaiter la bonne fête à tous les papas spirituels qu'il y a. Et moi, je veux mettre à l'honneur mon beau papa qui est présent en ce lieu, qui est comme un papa spirituel et un papa tout court, puisqu'il est toujours en train de réparer mes bêtises de bricolage. Et c'est un vrai papa. Et donc, on a besoin de mettre à l'honneur aussi les beaux papas. Ça marche aussi, hein? Ouais, il y a moins d'amen, c'est dommage. Ça dépend de la qualité de relation avec votre beau-père. Moi, ça se passe bien, par la grâce de Dieu. Il me supporte depuis si longtemps. Que Dieu renouvelle tes forces, Henri. Donc, une bonne fête à tous ces papas en devenir, ces papas que tu peux être. Un grand frère, c'est comme un papa spirituel. Donc, bonne fête à tous ces papas, à ces hommes qui deviennent des pères. Pour introduire mon message au-delà de la fête des pères, j'aimerais revenir à la Genèse. Puisque de la Genèse à l'enlèvement de l'Église, Dieu a formé un peuple. Il s'est toujours formé un peuple. Il s'est formé un couple dans le Jardin d'Éden. Il s'est formé un peuple en Israël. Il s'est formé un peuple par l'Église. Et un jour, il viendra chercher tous ceux qui auront placé leur espérance en lui. Amen. Alléluia. Et ça, c'est cette espérance-là. Mais pour illustrer un peu ce rôle de père, parce que c'est bien ce dont il est question ce matin, j'aimerais qu'on puisse voyager dans la Genèse et revenir dans ce jardin où Dieu va créer les cieux, la terre, des astres pour le jour, un astre pour la nuit. Il fait pousser l'herbe, il met des animaux sur cette terre. Et à chaque fois qu'il fait un acte de création, il dit « c'est bon ». Mais quand il arrive à la finalité de sa création, quand il a créé l'homme et la femme, il dira, c'est très bon. C'est très bon. Nous sommes, excusez-nous de le dire, nous sommes l'excellence de la création de Dieu. Tu peux le dire, ça fait du bien hein, ce matin. Je suis l'excellence de la création de Dieu. Dieu a mis le max à sa création en te créant toi. Je sais qu'il y en a des gens dubitatifs ce matin. Il y en a qui se rappellent encore qu'il faut honorer le beau-père. Oh, bah, tu ne le connais pas. Même lui, Dieu a mis le paquet pour le créer et il l'a aimé. Et au final, pourquoi Dieu va nous rappeler ce matin que ce qu'il a créé est très bon? Ben, au moins pour deux raisons. La première, en pensant à l'homme et en parlant de l'homme, pourquoi il dit que c'est très bon? Parce qu'il l'a créé à son image. Les animaux, la terre, les cieux, l'espace, le confin de l'univers, ce n'est pas à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Alors, il y en a qui vont me redire dans leur cœur, « Ouais, mais tu n'as pas vu ma tête le matin au réveil. » Je ne parle pas de cette image purement physique. Certains, oui. Bon, d'autres, non. Ok, ce n'est pas le débat ce matin. Mais Dieu nous a fait à son image. Il nous a fait dans une image relationnelle. Dieu nous a créés pour avoir une interaction avec lui, pour avoir une intimité, pour avoir cette proximité. Dieu nous a créés à son image pour nous avoir avec lui pour l'éternité. Et il y en a, même avec cette bonne nouvelle, qui s'en privent, qui ne veulent pas de la paix par Jésus-Christ avec Dieu et qui veulent vivre pour eux-mêmes. Mais un jour, qui seront séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Mais quelle folie ! Dieu nous a créés pour nous avoir avec lui. Aujourd'hui, le péché est là pour nous éloigner de lui. Mais Jésus, et Luc l'a très bien amené au travers de ce dernier chant, il a tout remporté. La victoire a été totale à la croix. Nous avons ce libre accès auprès du Père, nous, ses enfants. Et enfants de l'ordre de la création, et c'est dont il est question, mais nous pouvons être fils par Jésus-Christ. Et ce n'est pas le sujet ce matin de développer la qualité du fils, mais je voudrais m'adresser à tous les pères. Les pères en devenir. Et mesdames, prenez des notes de ce à quoi doit ressembler le père selon Dieu. Comme ça, vous serez les artisantes des pères glorieux dans votre foyer. Des maris que vous avez en face de vous, qui sont peut-être en décalage avec la définition biblique. Et après, on peut se dire, on peut s'encourager comme ça, il ne peut que progresser. Bah, vous encouragez un petit peu, hein. Oui, moi, en préparant ce message, je me dis, Seigneur, ouais, je vais prêcher ça, mais ouf, la marche, elle est haute. Il y a tellement à faire déjà dans mon cœur, Seigneur. Bon, c'est ton esprit qui parle. La deuxième raison pour laquelle Dieu a dit c'est très bon à la création, en parlant de nous, c'est qu'il nous a confié, non pas, et il le dit, hein, de dominer sur la création, non pas de se sentir comme des propriétaires qui pourraient... jouir du joujou dont ils ont pour faire n'importe quoi. Mais Dieu nous a créés à son image pour qu'on prenne soin de la création. Et je ne suis pas en train d'avoir une prédication écologique et je ne suis pas dans ces dimensions-là, même s'il faut prendre soin de la planète, parce qu'en parlant de ce qui est très bon, Dieu a placé des êtres humains à mes côtés. Il y en a même, ils l'ont épousé, l'être humain. Je parle de votre moitié. Il y en a même qui en ont enfanté des créatures de Dieu, et vos enfants. Et Dieu, il veut que nous puissions être de bons intendants de ce qu'il nous a confié. Des intendants responsables, veillant à l'évolution naturelle de l'enfant ou du couple ou du foyer. Aujourd'hui, cet appel retentit pour vous, père, futur papa, et ceux qui exercent une paternité spirituelle. Avec, au final, trois conseils ce matin. Le premier, brise l'isolement. Tu n'es pas un loup solitaire. Le constat de Dieu dans la création, et vous allez comprendre pourquoi je dis cela, nous le lisons dans Genèse 2:18. Le Seigneur se dit pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Non pas que nous ne parlons que de la femme que comme d'une aide, et je pense que nous avons mal évalué le mot aide dans la parole de Dieu en pensant que, en fait, il fallait qu'elle vienne faire le ménage, cuisiner, il fallait qu'elle se soumette. J'ai parlé de la véritable soumission la dernière fois, je ne reviens pas dessus. Vous pourrez écouter ce message de la fête des mères. Mais l'aide, c'était venir compléter, venir parfaire, comme si la création de Dieu n'était pas parfaite. Mais Dieu a vu que l'homme avait besoin d'une femme. Comme nous. Au final, ce que ça démontre, c'est plus que de parler de mariage. Nous sommes appelés à être connectés les uns aux autres. Mon ami, si tu as appris à vivre comme un loup solitaire, te suffisant à toi-même, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es appelé à vivre avec l'aide de quelqu'un. Le mariage en fait partie, mais pas que. On pourrait extrapoler ça avec la vie familiale, la vie communautaire, la vie d'église, la vie sociale au sens large. Tu as besoin des autres. Premièrement de Dieu, et c'est ta première connexion que tu dois avoir, mais celle qui vient juste après, c'est ton prochain, celui qui l'a placé à tes côtés. Et je rencontre dans mon parcours beaucoup de loups solitaires. Même des gens, mari et père de plusieurs enfants, des grandes familles, mais vous allez un peu chez eux, ils sont comme des célibataires. Ils vivent en loup solitaire. Les pères ont développé une protection à la vulnérabilité, une protection, une carapace à la vérité de ce qu'ils ressentent. une protection à l'interaction pour s'isoler. Et on voit ce que ça donne. On est de plus en plus, l'homme particulièrement, est de plus en plus introverti, cachant ses sentiments, croyant qu'il peut être un super-héros. Je ne dis pas ça pour les t-shirts que j'ai vus récemment, marqué « Mon papa est un super-héros ». Les enfants sont pleins de rêves. Mais l'homme, par nature, et je parle de l'être humain, mais particulièrement de l'homme masculin, Dieu a dit, en le regardant, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il l'a dit parce qu'il a vu comment l'homme s'est occupé de la terre. Et en donnant les noms aux animaux, l'homme, dans son ADN, il avait besoin d'avoir une interaction avec quelqu'un. Il ne l'avait pas avec les animaux. Il pouvait parler aux arbres, mais ce serait bizarre. Il n'avait pas ce vis-à-vis. Voilà pourquoi quand il verra la femme, il verra ce vis-à-vis, celle qui complétera sa vie, parce qu'il peut interagir, il peut collaborer. L'homme n'est pas bon seul. Et c'est valable aussi dans la foi. Si ta foi, tu la vis pour toi-même et par ta propre intelligence, tu es déjà perdu. La foi, elle est faite pour se vivre à deux, et en communauté, en église, qu'importe la taille de l'église, à partir de deux, on devient une église, alléluia. On devient ce corps de Christ, ce morceau du corps de Christ. Vous connaissez le syndrome du pot de cornichon ? Ouais, non, en fait, ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé, hein, donc on se calme. Mais je me dis, si je dis syndrome, ça fait intelligent. Non, je pensais, en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que je pensais vraiment que c'était un vrai syndrome. Bon, bref. Oui, bah écoutez, hein, je vous ai dit qu'il y a une marge de progression. Le syndrome du pot de cornichon dans la vie de l'homme, c'est, vous savez, la femme, elle est dans la cuisine. Et l'homme, il entend. Il se lève de son canapé, pose sa télécommande de la télé. Oui, je suis dans les caricatures. Il bombe le torse. Tu veux un coup de main ? Ah, voilà, là, ça fait un peu James Dean et tout ça. Bon, je caricature, j'ai dit. Et là, elle dit, ouais, j'y arrive pas. Tu peux m'aider ? Et la femme, elle n'a aucun problème à demander de l'aide. Elle, pour elle, c'est normal. On est collaborateurs. Mais nous, en tant que loup solitaire mâle alpha qui doit dominer, on dit, écoute, ok, allez, donne-moi le pot de cornichon. On la regarde du coin de l'œil. Ah, j'ai pas réussi à le faire. Ah, c'est bon, tiens. Tiens. Et style de rien, une victoire extraordinaire, mondiale, interplanétaire, s'est faite dans mon cœur. Pour, comment je suis puissant ! On inverse la situation. Un homme dans une cuisine a son pot de cornichon entre les mains. Dix minutes. Il va forcer. L'épouse arrive. Ouais, je sais pas pourquoi je marche comme ça comme une épouse. Mais... Chérie, t'as un souci ? Tu veux de l'aide ? Non, je vais y arriver ! Alors, tout fait réel n'existe pas. Ce n'est pas dans votre foyer. C'est ce que j'ai appelé le syndrome du cornichon. Enfin, du pot de cornichon. Et du cornichon qui essaye. Ça marche aussi. Double D. C'est à moi d'ouvrir le pot de cornichon. C'est à moi d'y arriver. Je m'en sortirai par moi-même. Messieurs, jamais vous avez dit des choses comme ça. C'est rigolo, un pot de cornichon. Mais ça en dit long sur la masculinité toxique qui anime les pères, les maris, les époux, les hommes d'aujourd'hui. À croire que seul, on y arrivera. Croire que l'homme est un super-héros. Il doit arriver avec son costume moulant, sa cape, et arriver et subvenir, arriver auprès de l'épouse, des enfants. Tintin, je suis là pour t'aider. C'est moi. T'y arrives pas, j'y arriverai. Quelle folie. Même Dieu, dès la création parfaite, avant que le péché n'arrive dans le monde, avait dit qu'il n'est pas là, il n'est pas bon à l'homme de rester seul. Père, pose le pot de cornichon. Non, tu n'es pas un super-héros invulnérable. Non, tu n'es pas suffisant par toi-même et avec toi-même. Oui, tu as besoin d'aide. L'homme qui devient père doit apprendre le travail d'équipe. Ah, étirez-vous les lombaires, ça va glisser, ça va coincer un petit peu. On a besoin d'aide. Alors, je parle de la relation homme et le reste du monde. Mais combien c'est, on peut le transposer dans la vie de foi, seulement personnelle, mesdames, vous pouvez vous y inclure aussi. Combien j'ai vu de chrétiens vivre seuls leurs épreuves, vivre seuls leurs questionnements dans la foi, vivre seuls des gros points d'interrogation sur la Bible, vivre seuls leurs échecs personnels et dire « j'y arriverai par moi-même ». Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il te demande de t'appuyer sur ceux qui pourront t'élever. Dieu a dit de regarder l'autre comme plus grand que nous, parce qu'il est la solution, en tout cas une partie. Dieu a inclus la solution dans mon prochain. Messieurs, Dieu a donné la solution dans le couple, auprès des enfants. Je pourrais vous citer des dizaines, il n'y a pas mes enfants donc j'en profite, des dizaines de fois où de la part de Dieu mes enfants ont parlé. Ils ne s'en sont jamais rendus compte. On ne leur a jamais dit parce qu'on n'a pas à mettre telles responsabilités sur les enfants. Mais c'est par dizaines et dizaines de fois où Dieu nous a parlé alors que nous prenions une direction avec Élodie, Dieu nous a parlé au travers de nos enfants. Combien de fois Dieu les a utilisés pour être une consolation ? Combien de fois Dieu les a utilisés pour désamorcer les situations ? Combien de fois Dieu veut utiliser ta femme, tes enfants, pour te sortir de tes propres pots de cornichon ? Un homme a besoin d'aide. Un homme doit avoir le courage d'aimer. Et là, ça coince un peu plus encore. Parce qu'autant des fois, demander de l'aide, ça va, mais exprimer ce que l'on ressent, ouvrir son cœur à celle à qui on a dit oui pour l'éternité, parler et aimer, exprimer, valoriser, traduire en acte l'amour pour nos enfants, pour notre prochain, c'est être gnangnan, c'est un peu faible et sensible. Pourtant, le modèle du Père parfait, celui de l'amour en action à la perfection, c'est celui du Père dans le ciel. Regardez ce texte de Jean. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce texte nous dit deux choses. Dieu prouve son amour en envoyant son Fils, son unique Jésus est venu. Il a prouvé son amour, il ne nous a pas dit du haut du ciel, juste « je vous aime, maintenant débrouillez-vous avec la question du péché ». Dieu a envoyé son Fils sacrificiel pour nous, par amour pour nous, il l'a envoyé. C'est en pratique, il y a un acte concret à l'amour de Dieu. Mais Dieu ne se contente pas juste de faire des choses pour nous, il nous parle. Et de la même manière que Jésus est mort, Jésus était venu pour être la voix de Dieu sur la terre, Dieu venant sur terre, révélant l'amour au monde pour révéler l'identité du Père auprès des fils et des filles que nous sommes. Dieu ne s'est pas trouvé trop sensible et était dans la retenue quand il est question d'amour. C'est même sa nature. Dieu est amour. L'exemple parfait, mon frère particulièrement, toi qui es papa ou papa en devenir, toi qui es un homme marié, toi qui seras marié, toi qui peut-être sera qu'un père et qui aimera les générations de l'Église, prends exemple sur le modèle suprême de l'amour du Père céleste. Dieu a dit dans ce texte de Jean, voyez, nous avons besoin d'ouvrir nos yeux. L'amour divin, il n'est pas passif, il est actif et sacrificiel. Mais quand je regarde à l'amour que le Père peut avoir sur la terre, il doit être à l'image du Père. Il doit être en action et en parole. Alors c'est vrai que le Père moderne aujourd'hui, quand il ne comprend pas, quand il est fatigué, quand il est frustré, quand il est soucieux, il se tait. Et je le dis à ma honte, des fois j'ai des temps de silence de plusieurs minutes, même à table, parce que dans ma tête ça turbine. Parce que je rencontre une difficulté et j'essaye de réfléchir comment je pourrais... Et même quand mes enfants me parlent, je vois juste leurs lèvres bouger sans entendre le son de leur voix. Ça m'arrive et j'en ai honte. Parce que l'amour en action, c'est rentrer déjà en discussion avec nos enfants, notre épouse. Il y a trop d'hommes aujourd'hui qui sont silencieux par échappatoire, qui sont silencieux parce qu'au moins, je n'ai pas besoin d'essayer de m'expliquer. Je suis silencieux, donc je me cache. Pourtant, on est bien là. Et en plus du silence, le père silencieux, il est passif. Il observe. Il te dira, je réfléchis. Je suis dans l'analyse. Mais il est juste passif et il ne dit rien. Avoir le courage d'aimer, c'est s'efforcer à l'image de l'exemple du Père Céleste et avec l'aide du Saint-Esprit, d'avoir des paroles de vérité, de tendresse et d'affection. Dieu ne cache pas notre état d'imperfection. Il nous l'a dit, il a dénoncé, il nous a dit que le salaire du péché, c'était la mort et que celui qui n'était pas réconcilié avec Jésus irait en enfer. Dieu nous a tout dit, mais il nous a aimés. Et cette parole, si quelqu'un la reçoit durement, c'est qu'il n'a pas entendu la voix du Père. Parce que la voix du Père, c'est une voix tendre, plein d'affection et plein d'intentionnalité, mais c'est une parole de vérité. Dieu ne cache pas notre état imparfait, il veut nous le révéler, mais il veut nous le révéler tout en nous aimant. De même, nos paroles, même quand nous devons corriger nos enfants, doivent être empreintes de vérité, mais enrobées d'affection, enrobées de douceur. Je crois que nous avons besoin, messieurs, d'apprendre à assumer les sentiments qui sont les nôtres. Et ce n'est pas simple. Nous avons reçu une éducation. Nous avons vécu des échecs, des choses nous ont refroidis. Et on se dit, si je dis rien, au moins, je ne dirai pas de bêtises. Mais l'amour, il est intentionnel. Autant Dieu est venu, nous sommes appelés à faire le premier pas. À aller prendre notre fils dans les bras et dire, je suis fier de toi. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Rien, tu es mon fils et je t'aime. Je suis fier de toi. Savons-nous le faire, messieurs ? Savons-nous aimer en parole et en acte? Alors, je sais que certains vont me dire, mais en acte, c'est facile. J'offre plein de cadeaux, je paye des voyages, avec le travail que je fournis, on a une belle maison. Oui, l'amour, c'est donné, c'est sacrificiel, c'est une action. Mais est-ce que tu offres à tes enfants, au-delà de toutes ces choses-là que tu t'évertues de faire, un temps de qualité? J'observe le monde moderne. Les deux parents travaillent, ils font des heures sup pour se payer les vacances cet été parce qu'il faut au moins tant de milliers d'euros pour ça. Et puis pour construire la maison, il faudra tant de milliers d'euros. Donc chérie, tu travailles ça, tu prends cette mission, ouais, c'est pas grave, prends cette garde de ce week-end, et puis ainsi de suite. Et nos enfants font des 8h, 20h entre l'école, la garderie, l'alaïe, et nous les voyons le soir, un bisou sur le front, bonne nuit. Est-ce qu'il n'y a pas plus à offrir que de l'argent et un confort matériel? Moi, je crois que oui. Je crois que même bibliquement, offrir un confort matériel et financier, c'est condamnable quand c'est au détriment de l'affection et des temps de qualité. Moi, quand j'ai commencé dans le ministère, on m'a dit une chose, Nathanaël, tu n'auras jamais le temps. Et les chrétiens ne comprendront pas que tu n'as pas le temps parce que tu travailles que le dimanche. Donc, mais vous n'avez jamais dit ça, vous. Nathanaël, tu n'auras jamais le temps, mais tu bloques ton mercredi. Tu poses ton téléphone, et désolé pour ceux qui essayent de me joindre le mercredi, vous n'y arriverez rarement, jamais on va dire. Tu poses ton téléphone et tu passes du temps de qualité avec tes enfants. Parce que tu n'auras qu'une seule journée à leur confier dans la semaine. Depuis 10 ans, je m'évertue à faire cela. Je dis m'évertue parce que des fois il y a eu des enterrements le mercredi. Bon, on répond présent quand il y a des urgences, on est d'accord. Hein. Messieurs, je ne connais pas vos emplois du temps. Et je suis persuadé que vous allez me dire, je n'ai pas le temps. Oh, on a tous signé, on est en 2025. Mais je crois qu'il est urgent, urgentissime, de recalibrer la gestion de notre temps. Parce que la meilleure chose à donner à notre famille, c'est notre temps et du temps de qualité. Pas des temps de silence par une présence oisive et passive. Des temps de qualité où tu vas t'investir dans la vie de tes enfants. Comment ça se passe à l'école? Viens, on va discuter. Viens, on va taper le ballon. Viens, je vais brosser tes poupées. Bah, messieurs, ça c'est la galère, hein, je vous l'accorde. La seule coiffure que je fais à ma fille, c'est une queue de cheval. Ok? Elle sait, on va à l'école, queue de cheval haute. Elle le sait, elle ne me demandera rien d'autre. Elle connaît ma qualité, il se passe un quart d'heure pour une queue de cheval haute. Mesdames, vous avez interdiction de rigoler. Ils ont rigolé quand même, c'est pas bien. Ça s'appelle de la moquerie. J'ai essayé, bref, c'est pas le sujet ce matin. Notre temps, savons-nous offrir notre temps? Savons-nous, messieurs, offrir le renoncement au moi? Je suis le père, tu te tais. En prenant autorité, d'autoritarisme, pardon. Cet orgueil, cette fierté qui peut nous isoler. On ne me respecte pas dans cette maison. Je vais dans mon garage. Savons-nous offrir l'humilité et de la vulnérabilité? D'être capable de venir et de demander pardon même à nos enfants? Ouh. Des parents qui demandent pardon aux enfants, mais c'est n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, c'est salutaire. Apprendre à demander pardon quand on sait qu'on s'est trompé. Pas quand on a corrigé, puni pour quelque chose qui était légitime parce que l'enfant s'est mis en danger ou l'a outrepassé son rang. Je ne parle pas de ça, je parle de quand quelque chose n'a pas été à la proportionnelle, quand on a surdimensionné notre réaction pour un simple oubli, un verre cassé qui a loupé l'entrée du lave-vaisselle. Ouais, toutes ces choses-là, c'est des faits réels. L'homme doit avoir le courage d'aimer comme le Père Céleste, d'agir et de parler. Parce que le verset, et vous l'avez devant vos yeux, nous invite à voir et à entendre. Vos épouses, vos enfants ont besoin de voir et d'entendre. De voir vos actions, vos dons sacrificiels, de tout ce que j'ai listé juste avant. Et d'entendre les paroles qui viennent de la part de Dieu. Alors c'est vrai qu'on a résumé le rôle du père à être un rôle de protecteur et de provision. Il doit pourvoir aux besoins de sa famille. On le dit même devant monsieur le maire, nous signons pour cela. C'est vrai. Toutes ces choses-là sont vraies, mais elles ne sont pas prioritaires. Excusez-moi de le dire. Je ne dis pas qu'on va habiter dans des cahutes sur le bord de la route. Je n'ai pas dit ça. Mais la priorité, c'est la sécurité affective, la sécurité émotionnelle, la sécurité intellectuelle et celle que je vais évoquer maintenant, qui surpasse toutes les autres, la sécurité et l'assurance éternelle. Parce que ce qui a été demandé au père, c'est d'être le chef de la maison. Non pas le chef qui décide, qui ordonne et tout le monde se carapate au moindre mot de sa voix, mais c'est le chef de maison qui doit déployer un zèle dans ses responsabilités et dans son leadership. Je vais prendre pour exemple le geôlier dans la ville de Philippe. Le geôlier, c'est le gardien d'une prison, pour ceux qui n'auraient pas la traduction moderne. Il est gardien d'une prison, on lui confie Paul et Silas, ils sont mis en prison. Et alors qu'en pleine nuit, ils sont en train de chanter, ils vivent une soirée de louanges, les fers aux pieds, bon, particulière, mais un tremblement de terre va avoir lieu. Les prisons, les fondements de cette prison vont tout, les portes vont s'ouvrir, les prisonniers seront libres. Il est dit que le geôlier, quand il va se réveiller au fracas du tremblement, tellement il va avoir peur. Et il va être dans l'échec, tellement il aura des pensées noires, tellement il sera dans cette solitude, dans cette incapacité de trouver une solution par lui-même. Et que de demander de l'aide, ce n'était pas dans ses habitudes. Il a dégainé son épée. Et sur le point de se suicider, une voix se fera entendre. Saul de Tarse lui dira « Stop ! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Je passe les détails, mais cet homme va déposer les armes, déposer son épée, celle qu'il allait tourner contre lui-même, celle que parfois, mon frère, tu utilises pour asseoir ta domination. Il est venu le temps où nous devons arrêter de combattre les mauvais combats, messieurs, et de ne pas utiliser les armes de ce monde. Cet homme a déposé son épée pour prendre de la lumière, et pour rentrer dans un endroit ténébreux. Moi, je crois que cet homme, il a su troquer l'épée pour la lumière. Il a déposé ses armes. Il a su combattre le bon combat. Cette révélation de ce Jésus a été dans une simple question. Comment je fais pour être sauvé? Il va poser cette question aux apôtres. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi. » Non, non, juste lui, c'est lui qui pose la question. Les enfants, la femme, ils sont tous en train de dormir. Et pourtant, il y a une promesse qui est offerte au foyer que j'ai en face de moi. Une promesse qui vient de Dieu. Une parole d'autorité dans ta vie maintenant. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Est-ce qu'à cette simple phrase, la famille du geôlier a été sauvée ? Non. Nous sommes, je le rappelle, nous sommes en pleine nuit. Dans sa maison, les enfants et l'épouse dorment. Est-ce qu'ils sont sauvés ? Comment peut-il être sauvé s'ils n'ont pas entendu le nom de Jésus ? Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Vous connaissez ce passage ? Il a pris les apôtres. Il a dit, cette bombe qui a résonné dans mon cœur, cet évangile qui m'offre l'espérance, là où j'ai déposé les armes, ces pensées noires de suicide, d'insuffisance, de ces frustrations de l'homme qui n'y arrive pas, le pot de cornichon qui me résiste, je le dépose et je prends la lumière de Jésus-Christ dans mon cœur. Mais je ne le garde pas pour moi. Non, 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 je ne le garde pas pour moi. Je porte cette lumière dans ma maison. Messieurs, tu es responsable du réveil de ton foyer. C'est ce que Dieu te demande. Il te demande d'aller dans ta maison, d'être capable de réveiller tes enfants en pleine nuit. Ton épouse, on ne fait pas ça toutes les nuits, mais cet homme avait compris que cet évangile, cette puissance libératrice, transformatrice, c'était pour sa maison tout entière. Il a saisi cette parole, toi et ta famille. Et il l'a transformé en action. Il n'a pas juste prié. Il a transformé son environnement. Non, ça c'est la conclusion, si tu peux mettre juste avant. Laisse ça, voilà, merci. Il a transformé ses habitudes. Il a posé, il a déposé ses armes naturelles. Quelle est l'arme de fuite que tu manipules le plus souvent ? Une télécommande, un abonnement Canal+, une bouteille, la salle de sport ? Les copains, les barbecues, pastaga, pétanque. Quelle est ta fuite ? Quelle arme tu dois déposer, mon frère, ce matin pour porter la seule chose qui mérite d'être dans ta main, la lumière de l'Évangile ? La seule chose que tu dois porter et prendre, c'est cette lumière. Et je te pose une deuxième question. Es-tu prêt à réveiller ta famille ? Es-tu prêt à être l'empêcheur de tourner en rond spirituel ? Celui qui ne reste pas sur des acquis, sur les malédictions du passé, sur les liens d'hérédité, et dire « maintenant ça suffit, j'ai la lumière, et la lumière je la porte, et dans ma maison, les ténèbres ne règnent plus, dans ma maison, c'est Jésus le roi, c'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui a toute autorité. » Est-ce que tu as pris cette position, mon frère, ma sœur ? Particulièrement messieurs. Parce que cet homme, en pleine nuit, il va aller secouer sa femme, secouer ses enfants. Venez dans le salon. Je ne sais pas comment ils avaient cet effet, mais il les a amenés dans le salon. Il y avait les apôtres. Il leur a fait une petite toilette parce qu'ils avaient, non, ils avaient pris tarif. Il les a nettoyés, il les a honorés, il les a mis à leur table. Et l'évangile a été prêché dans sa maison. Il n'a pas dit « Oh Seigneur, qu'ils viennent dans cette église » et puis je l'ai... Dans sa maison a été le premier lieu d'évangélisation de toute sa famille. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où l'évangile est prêché, comme lui avait cru, ses fils, ses filles, son épouse vont croire à leur tour et sans détour, sans attendre, ils vont s'engager à suivre Jésus. Ils vont tous prendre le baptême ce soir-là. Ou au petit matin, je ne sais pas. Ce jour-là, ils prendront la décision qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'épée, mais la lumière qui régnera. Et je nous pose cette question en conclusion et je termine là. Est-ce que tu peux m'afficher la dernière, Caroline, maintenant, s'il te plaît ? Est-ce qu'il y a des hommes, je m'adresse particulièrement aux hommes, mais mesdames, vous avez le droit de transposer, pour les mamans solo, celles qui n'ont plus de mari, d'époux à la maison. Vous avez aussi ce rôle-là pour vos enfants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des hommes, des femmes, et particulièrement des pères, ou des futurs pères, vous avez compris, qui vont dire maintenant, j'ai besoin d'aide. Reconnaître leurs limites, arrêter d'être toxiques dans leur masculinité, et dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de Jésus. Puis j'ai besoin de ma famille, parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Il y a plein de pots de cornichons qui vont me résister encore. Est-ce qu'il y a dans cette salle des pères qui vont dire, je t'aime? C'est dur à dire, hein, je t'aime. Ah, c'est comme le mot pardon, les deux mots les plus compliqués à dire. Je t'aime et pardon, généralement ils vont de pair, et sont difficiles à prononcer. Mais des pères qui vont dire je t'aime en acte, qui vont offrir peut-être diminuer leurs heures de travail, prendre moins de responsabilités pour passer plus de temps en famille, parce que ça traversera l'éternité. Le compte en banque, non. La maison piscine, non plus. La belle la voiture, non plus. Ça reste sur la terre. Ma famille, elle doit monter au ciel avec moi. Est-ce qu'il y a dans cette salle des pères qui vont réaliser qu'ils sont responsables du réveil de leur foyer? Et j'extrapole de cette église, et j'extrapole de la Haute-Garonne, du Gers, de la France, du monde entier. Parce que ça se passe, et ça commence par un foyer qui ouvre ses portes, qui ouvre la lumière à Jésus-Christ, qui amène à exposer les gens à l'évangile, et qui dit, ma maison maintenant, c'est une maison d'évangélisation, c'est le premier lieu où on prêche l'évangile, ma maison avec mes enfants et mon épouse, nous allons être un lieu de culte pour célébrer notre Dieu chaque jour, et là où il y avait la vaisselle qui volait, là où il y avait cri, là où il y avait les cris, là où il y avait les disputes, là où il y avait la bouteille, là où il y avait toutes ces choses-là qui nous tiennent liés, la lumière de Jésus va briller. J'aimerais vous inviter, si vous vous reconnaissez, si vous êtes dans ce désir-là, d'être un père, et j'extrapole pour toutes les mamans solo, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'avoir le courage d'aimer, qui veulent être responsables du réveil spirituel de leur famille. Si c'est là, dans votre cœur, un désir ardent, je vais vous demander de vous tenir debout et on va prier. On va prier, on va se placer devant Dieu. Peut-être c'est tout tremblant que tu vas te tenir debout. Mais cet homme a dû être tout tremblant face à la puissance de Dieu manifeste. Il a fallu qu'il dépose son épée, prenne la lumière et aille dans ce lieu où il a reçu cette parole de salut. Qui ce matin va prendre position pour sa famille? Qui ce matin, messieurs et mesdames, vont prendre position pour dire, Seigneur, je veux combattre le bon combat. Je veux déposer mon épée et porter la lumière. Je veux maintenant me responsabiliser, être dans un rôle de leadership dans ma maison, du leadership de la foi et de l'évangile et de la grâce. Qui ce matin va se lever pour cela? Peut-être tu n'as pas de foyer à proprement parler qui se compose normalement et biologiquement. Mais j'élargis cet appel à tous ceux qui voudraient être des pères spirituels, de ceux qui doivent prendre soin des plus petits, des autres générations, de ceux qui arrivent dans la foi, dans l'Église. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se tenir debout, qui vont faire le choix d'aller bousculer et réveiller même ceux qui dorment? Et comme Jésus l'a dit à cette petite fille, comme il l'a dit face au tombeau devant la maladie de Lazare, il n'est pas mort, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et quand quelqu'un dort, il a besoin d'être réveillé. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes ce matin qui vont dire maintenant, je prends position. Je dépose mes épées, celles de la langue, celles des regards, celles des mauvaises pensées. Et je porte la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus, soumania la laïe de soud, lolo soud. Surra baba baba yesu, dononoma india la sounda. Esprit de Dieu, tu viens parler au cœur maintenant. Tu vois ces hommes, ces femmes aussi, limités, trop fiers pour demander de l'aide, marqués, traumatisés, au point de ne pas arriver à dire je t'aime. Ces hommes et ces femmes qui ont combattu les mauvais combats, mais qui aujourd'hui choisissent de porter la lumière plutôt que l'épée. Seigneur, je te prie maintenant, je te prie que ton esprit maintenant vienne accompagné de cette décision, un acte puissant et transformateur dans les vies, afin qu'ils ne puissent pas voir leur famille, les situations comme mortes, mais comme dans le sommeil qui peut sortir et être réveillé, comme cette famille qui a été réveillée en pleine nuit. Jésus, je te prie pour que toutes ténèbres qui auraient régné dans les foyers soient percées par ta lumière maintenant. Je te prie pour que les cœurs endurcis, les cœurs tortueux, ces pensées complètement imbriquées, renversées, qui ne sont pas seules des pensées de Dieu, puissent être nettoyées, restaurées maintenant. Nous te prions, Seigneur, pour que tu agisses maintenant. Et je vais t'inviter, mon ami, toi qui es debout, à faire cette prière dans ton cœur. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de mon épouse. J'ai besoin de mes enfants. Déclare ton impuissance. Déclare ta limite. Tu as besoin de te reconnaître sans aide pour demander de l'aide. Dis-le au Seigneur. Tu fais cette phrase. J'ai besoin d'aide. Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de dire je t'aime en acte et en parole. J'ai besoin de comprendre que je suis responsable du réveil de ma famille. Fais cette prière dans ton cœur. Fais-la à mi-voix. Fais-la à pleine voix. Fais-la avec larmes, cette prière. Mais fais-le. Prends position ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Fais cette prière, mon ami. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, tu fais grâce. Tu fais grâce, Jésus. Oh, maintenant, Seigneur, tu fais grâce. Et en même temps, comme le culte a commencé par un temps de louange, on va bénir le Seigneur ensemble aussi. Après lui avoir demandé, on va bénir le Seigneur. Comme il a été question de bénir le nom du Seigneur en tout temps et en toutes circonstances et en temps de faiblesse. Je crois qu'il est bon dans ces temps d'appel de dire « Seigneur, c'est de toi que me vient la victoire. Et je veux te louer, je veux t'adorer, je veux déjà te dire merci. » Alléluia, commence à louer son nom, commence à louer son nom. Dis-lui merci, merci pour ce qu'il a déjà accompli, qui vont t'encourager à prendre toi qui as pris cette décision, à le parfaire en acte, en prise de position, en choses qui vont changer dès ce soir, dès la fin de ce culte, dès cet après-midi, dès le lendemain dans cette semaine. Des décisions vont être prises, des actes vont être posés. Loue le Seigneur, remercie-le de ce que Dieu te transforme. Dieu dispose ton cœur ce matin. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Messieurs, si vous avez votre épouse à côté, prenez-la dans vos bras en disant merci. Ou juste en remerciant Dieu pour l'aide qu'elle est. Si vos enfants sont là avec vous ce matin et ne sont pas au gibe, ou même si tout à l'heure ils vous rejoignent, remerciez Dieu pour vos enfants. Messieurs, reconnaissez l'aide que Dieu vous a confiée. Et toi qui n'as ni femme ni enfant, remercie Dieu pour l'Église, pour cette famille qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour l'aide qu'il t'offre. Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour l'aide que tu nous donnes. Merci pour la force du Saint-Esprit, l'équipement du Saint-Esprit que tu nous donnes pour apprendre à aimer, à le dire, à le prouver. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci pour les responsabilités pour les responsables du réveil que nous devenons en nous. En tout cas, nous reprenons cette position-là, d'être les garants du salut de notre maison. Tu peux aussi dire merci, toi, jeune gens, toi, célibataire, toi, veuf, toi, juste couple marié. Tu peux dire merci. Tu peux dire merci au Seigneur. Car ce matin, tu as troqué l'épée pour la lumière. Jésus. J'aimerais que l'Église puisse prier maintenant pour les pères, pour ces hommes qui deviennent pères, qui deviendront pères. J'aimerais que, mesdames, vous puissiez faire résonner vos voix pour bénir la gent masculine, particulièrement dans le défi de 2025. Prie pour les hommes, qu'ils reprennent leur place, qu'ils retrouvent leur place. Cette place inscrite dans la pensée de Dieu, dans sa parole, qui est là comme un guide. Ma sœur, prie s'il te plaît, élève ta voix. Prie pour ces hommes qui sont présents en ce lieu. Prie pour les hommes peut-être laissés à la maison, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas rencontré Jésus dans ton foyer. Prie, car au prix de ta prière, le salut de ton mari en dépend, celui de tes enfants, la place des hommes dans l'église, dans les foyers, dans la société, vont être restaurées par la prière des épouses et des femmes qui prennent part au combat. Ma sœur, n'oublie pas, tu es cette guerrière évangélique, tu es celle qui porte l'évangile, qui le transmet avec zèle. Alors prie maintenant, ma sœur, prie pour ces hommes qui sont là, qu'ils trouvent leur place, qu'ils prennent leur place, que les cœurs soient guéris, restaurés. Alléluia. Oh Jésus.